Frères et sœurs, chers amis, merci de m'accueillir pour ce temps de culte. Peut-être avez-vous noté que nous sommes en campagne électorale. Alors rassurez-vous, je ne suis pas venu vous dire pour qui voter, en protestantisme en tout cas. Chacun est responsable de ses décisions. Et l'Église là que pour accompagner et soutenir ses choix. Mais il m'a semblé qu'il était peut-être bon que nous prenions un peu de distance par rapport au feuilleton quotidien et que nous écoutions quelques textes bibliques qui peuvent peut-être nous aider et nous éclairer. Je ferai allusion à plusieurs de ces textes, mais je vous en lis tout d'abord trois. Le premier, une histoire assez savoureuse, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, je lis quelques versets du début de ce chapitre. Lorsque Samuel devint vieux, il nomma ses fils juges en Israël. Mais les fils de Samuel ne suivirent pas sa voie. Ils avaient un penchant pour le profit, acceptaient des pots de vin et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama et lui dirent « Toi, tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent de les entendre dire « Donnez-nous un roi pour qu'il soit notre juge. » Et Samuel pria le Seigneur. Et le Seigneur dit à Samuel « Écoute le peuple pour tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Maintenant donc, écoute-les, mais avertis-les et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel dit toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi, et il dit « Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à ses chars et à ses attelages. Ils iront devant son char comme gardes du corps. Il les nommera chef de 1000 ou chef de 50. Il leur fera labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et il le donnera aux gens de sa cour. Ainsi, vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre le roi que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Tant pis, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi sera notre juge, il conduira nos armées et mènera nos guerres. » Et puis, en contraste et comme en réponse des siècles après, cette discussion entre Pilate et Jésus au moment de son procès. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Et Pilate répondit « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et tes grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Et Pilate lui dit, « Toi, tu es donc roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Et Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et enfin, je lirai dans l'Épître aux Romains le début de ce fameux chapitre 13 qui nous pose quelquefois bien des problèmes. « Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Et ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu. Je mets une parenthèse dans le texte grec, c'est le mot « diakonos » qui est employé, serviteur, qui donnera dans l'Église « diacre ». Les autorités sont diacres de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée, en effet, elle est au service de Dieu. Et c'est encore le mot « diakonos » qui est là, pour faire justice, pour la colère, contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. Et c'est pour cela aussi que vous payez des impôts. Car les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Et ici, dans le grec, c'est le mot « leiturgos » qui apparaît. « Leiturgos » qu'on peut traduire par « fonctionnaire » et qui a donné dans l'Église « liturge ». Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je vous invite à chanter dans notre recueil « Louanges et prières » le numéro 213 « Gloire à ton nom, ô Dieu de paix » les trois strophes de ce cantique. Seigneur, fais-nous maintenant entendre ta parole. Elle nous est offerte et cependant nous résiste. Elle est forte et cependant s'estompe, fragile sous le flux de nos mots. Elle est limpide et cependant cachée. Elle se cherche comme à tâtons. Apprends-nous à chercher, scruter, patienter, demander. Ne nous laisse pas nous décourager, car c'est toi-même, Seigneur, qui nous parle, comme un ami parle à son ami. Nous voulons un roi. Un peuple réclame un chef puissant parce qu'il en a assez de la corruption, assez de la violation des droits, assez de ne pas être respecté parmi les nations. Un chef puissant, même s'il faudra payer et payer cher pour cela. Même si l'alliance de libération conclue avec le Dieu du Sinaï en est brisée. Ma royauté n'est pas de ce monde. Des siècles plus tard, Jésus constate un décalage. Aveu d'échec. Constatation d'une incompatibilité entre la terre des humains et le ciel de Dieu, voire, en n'ayant pas peur de l'anachronisme, consécration prophétique d'une laïcité qui séparerait non seulement pouvoir civil et pouvoir religieux, ce que le protestantisme en général approuve, mais aussi évangile et politique. C'est sur ces questions que je voudrais vous proposer quelques éléments de réponse en plusieurs temps. Et tout d'abord, oui, l'Évangile est politique. Jésus entame son ministère en annonçant « Le royaume de Dieu s'est approché ». Il inscrit ainsi la volonté de Dieu dans une proximité, ce qui indique à la fois une distance et un lien. Une distance, parce que le royaume de Dieu n'est pas là, pas encore. Ce qu'expriment aussi nombre d'autres textes, par exemple les paraboles du royaume, celle du grain semé par terre, encore invisible, mais qui poussera jusqu'à devenir un arbre. Celle du bon grain et de l'ivraie qui nous explique qu'il est dangereux de vouloir trier trop vite. Nous ne sommes pas dans le royaume. Nous ne maîtrisons pas le royaume. Et chaque fois qu'on a voulu faire comme si, en imposant un régime de chrétienté, on a abouti à l'enfer des dictatures religieuses. Une distance, mais un lien. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Et il n'y a pas de séparation étanche entre le ciel et la terre, ni entre le privé du chrétien et le public de la cité humaine. Dieu a une volonté pour notre monde, une volonté qui interpelle nos réalités humaines, une volonté qui a planté dans ce monde les graines du royaume, ces graines que nos actes, nos décisions, nos politiques sont appelées à faire croître. Depuis le psalmiste qui proclamait « Amour et vérité vont se rencontrer, justice et paix s'embrasser, la vérité sort de la terre et la justice se penche des cieux, le Seigneur lui-même donne le bonheur. » Jusqu'au voyant de l'Apocalypse qui entreaperçoit le ciel nouveau et la terre nouvelle, la demeure de Dieu parmi les humains, où la mort ne sera plus et où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Du psalmiste au voyant de l'Apocalypse, les Écritures témoignent du projet de Dieu pour le monde. Ce projet que nous pouvons discerner de manière particulièrement claire en Christ, comme le proclame l'Épître aux Éphésiens. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Si la foi est ce mouvement de vie qui nous fait regarder au Christ, elle nous fait discerner en lui pour l'histoire de notre monde et pas seulement pour notre propre histoire, un sens et une espérance. Oui, l'Évangile est politique, fondamentalement et authentiquement politique. Mais en disant cela, il faut dire en même temps, non, l'Évangile n'est pas un pouvoir politique, mais une parole adressée à nos responsabilités, une parole critique, une parole de lucidité. Il faut bien reconnaître que la Bible, en général, porte un regard assez cru sur les pouvoirs, quels qu'ils soient. Vous l'avez entendu dans l'histoire du peuple qui réclame à Samuel un roi, et même ceux qu'elle présente comme les élus de Dieu, David, Salomon, etc., ne sont pas exempts d'infidélité. Alors il ne s'agit pas de tomber dans la démagogie du tous pourri, mais il s'agit de prendre conscience du caractère humain, c'est-à-dire limité, faillible et parfois illusoire du pouvoir politique. Un des textes les plus critiques est sans doute au chapitre 9 du livre des Juges, je vous invite à le relire chez vous, la fable de Yotam, le plus jeune des fils de Gédéon, qui dénonce la tentative de prise de pouvoir de son demi-frère Abimélec. Les arbres s'en allèrent conférer l'onction à leur roi. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi !» Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, ce que les dieux et les humains apprécient chez moi, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors les arbres s'adressent au figuier, puis à la vigne. Les arbres les plus utiles en Palestine, après l'olivier, mais tous font la même réponse. Enfin, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi !» Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est loyalement que vous voulez me conférer l'onction pour que je sois roi sur vous, venez, abritez-vous sous mon ombrage. » Ce qui est dénoncé ici, c'est bien sûr la vanité du puissant qui se trompe sur ses possibilités réelles et l'empêchera d'accomplir ses promesses. Essayez donc de vous abriter à l'ombre d'un buisson d'épines. Mais c'est aussi l'erreur du peuple qui se laisse berner. C'est là un épisode particulier, mais qui nous alerte, je crois, sur un risque général, l'aveuglement. Notre aveuglement. Quand nous ne voyons que nos désirs ou nos peurs, ce qui nous empêche de voir la réalité. L'aveuglement qui ouvre à la tentation de se tourner vers un puissant, quel qu'il soit, qui réalisera nos ambitions à notre place. Un puissant, efficace, héros, saint, irréprochable. Bref, une sorte de Dieu qu'il suffirait d'invoquer. C'est sans doute le refus d'être ce puissant-là qui explique l'attitude de Jésus devant Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il a refusé d'être le fournisseur de pain gratuit, le faiseur de miracles spectaculaires, le meneur d'une révolte. Lui a vu clair, et peut-être d'abord dans ses propres désirs de puissance, et c'est ce qui nous est raconté, me semble-t-il, dans le récit de sa tentation sur la montagne. Comme dans les attentes troubles des foules qui le suivaient. Alors, non seulement l'évangile tel que le vit Jésus n'est pas une prise de pouvoir politique, au contraire, il en dévoile les ambiguïtés, les jeux de désir et de peur, et il les dévoile publiquement. Si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Alors, faudrait-il séparer évangile et politique ? Et en tant que chrétien, en tout cas, se cantonner à l'annonce de l'Évangile sans se mêler de la vie de la cité. Au contraire, et c'est là ma troisième proposition, l'Évangile ouvre l'exercice de notre liberté et de notre responsabilité politique. Fondamentalement, l'Évangile, c'est une parole incarnée, Jésus de Nazareth. L'Évangile n'est pas une utopie, mais un regard. Pas une idéologie, mais un service. Pas une collection de valeurs ou de normes transcendantes, mais un compagnonnage. Si l'Évangile proclame haut et fort des valeurs, la paix, la justice, l'amour, il ne se contente pas d'une sorte d'incantation, mais il exhorte à des engagements durables, patients, réalistes. La paix, ce n'est pas un acquis, mais c'est le travail de la réconciliation concret, modeste, persévérant, qui seul permet de la préserver ou de la reconstruire quand elle a été mise à mal. La justice, ce n'est pas seulement un droit, mais c'est une pratique de la solidarité dans le souci de l'autre, le dialogue, le partage. L'amour, le bonheur, la vérité, ce ne sont pas des valeurs à promouvoir et respecter, mais c'est ce qui se reçoit, qui se construit, qui se vit dans le service les uns des autres. Ainsi, l'Évangile nous ouvre un espace d'action. Nous ne sommes pas enfermés dans les réalités existantes, avec parfois leur poids et leur cynisme. Pas non plus obligés par un idéal divin, une loi absolue qui nous culpabiliserait, mais dans un espace ouvert, où nous avons à faire des choix et où nous pouvons les faire en assumant notre dignité comme notre fragilité humaine. L'espace politique, un espace humain avec ses limites, ses risques d'erreur, parfois ses dérapages, mais aussi l'espace des possibles pour l'exercice de notre liberté et de notre responsabilité. Mais allons encore un peu plus loin, et ce sera ma dernière parole, peut-être adressée spécialement à nous qui partageons la foi chrétienne. Et j'en viens à ce surprenant chapitre 13 de l'Épître aux Romains. « Soumettez-vous. Les autorités ont été instituées par Dieu. Ceux qui s'opposent recevront une condamnation et payez vos impôts. » C'est d'abord un fameux contre-pied. Car il semble bien que dans l'Église de Rome, il y avait des Juifs qui avaient subi l'antisémitisme de l'empereur Claude avec ses violences et ses spoliations, et qui, revenus dans la capitale, n'avaient pas grande envie de se soumettre et de payer l'impôt. Et c'est aussi une parole qui provoque, car lorsque Paul parle des autorités romaines comme de serviteurs ou de fonctionnaires de Dieu, il est bien évident qu'il ne se réfère pas à leur qualité religieuse ou morale. Leur façon de vivre comme de gouverner était bien loin des exhortations que Paul donne par ailleurs. Et les fameuses affaires actuelles ne sont que broutilles à côté des mœurs politiques de l'époque. Si ces autorités sont ainsi reconnues, c'est au travers d'une lecture théologique de l'histoire. De la même façon que, en Christ, par la foi, les chrétiens, nous, moi, sont vus dans leur vocation de créature nouvelle, de la même façon, au regard de Dieu, les autorités politiques, même sans Dieu, sont appelées et reconnues comme autorités dans leur service du bien commun. Cela signifie bien sûr que ces autorités ne sont que serviteurs et pas Dieu. Elles ne détiennent pas la vérité ultime, ni le droit d'imposer un sens à la vie humaine ou à la destinée du monde. Chacun garde le droit et le devoir de critique, de révolte même, lorsque l'autorité sort de son rôle et qu'elle se sert elle-même, qu'elle se glorifie elle-même ou qu'elle a servi les autres. Mais cela signifie aussi que dans ce cadre du service du bien commun, nous sommes appelés à reconnaître les autorités en place. C'est là peut-être aujourd'hui à nouveau un contre-pied dans une société où l'action politique est souvent paralysée par les intérêts personnels ou catégoriels, parfois par la défense scandaleuse de privilèges. En tout cas, reconnaître une autorité ne peut pas se limiter, comme nous le faisons trop souvent, à mettre un bulletin dans l'urne et puis rentrer chez soi pour râler devant la télévision. Reconnaître une autorité, surtout si on la reçoit comme serviteur de Dieu, c'est prendre sa part de responsabilité politique, de charge, parfois de renoncement et de sacrifice, à la suite du Christ, à l'image du Christ. Un contre-pied, je disais, théologique, que je crois nous devons offrir à notre société, c'est peut-être un paradoxe, pour retrouver paradoxalement le vrai sens de la démocratie. Alors, frères et sœurs, quand nous nous préparons à exercer nos responsabilités, peut-être faut-il tout d'abord nous poser la bonne question. Non pas qui va défendre au mieux mes intérêts, mais quel est celui ou celle que je pourrais peut-être regarder comme diacre de Dieu, serviteur des autres dans la situation actuelle. À côté de moi, au travers de ses qualités et de ses propositions, en sachant qu'il est humain comme moi, imparfait et limité comme moi, mais aussi avec moi, appelé à vivre la dignité de la liberté et de la responsabilité humaine. Alors, frères et sœurs, en ce temps du choix politique, écoutons l'Évangile. Méditons l'Évangile. Laissons-nous libérer par la parole de l'Évangile. Prions. Votons. Et ne cessons pas d'exercer nos responsabilités. Amen.